Bonjour, c'est Sophie Laurence. Je vous invite à partager un moment avec mes invités, les poètes d'hier et d'aujourd'hui. Cette nouvelle émission intitulée « Les poèmes du lundi » aura lieu chaque premier lundi du mois de 17h à 17h50 sur fréquence Mistral 99.3.
Eh bien, bonjour Sophie.
Bonjour.
Bonjour à tous nos auditeurs de Fréquence Mistral. Si vous nous retrouvez pour cette émission mensuelle animée et préparée par Sophie Laurence. Sophie, aujourd'hui, vous allez nous parler de Paul Éluard.
Oui, enfin, c'est plutôt lui qui va parler.
D'accord.
De lui, parce que ça sera difficile de parler d'un poète, en fait. Mais partout, on va parler aussi rapidement, comme ça, un peu son parcours. Parce que ben, pour parler d'Éluard, il faut beaucoup d'émissions.
Alors, on va commencer par une, déjà.
Ah oui, bien sûr, voilà. Donc, bon. À partir d'un mot franc et des choses réelles, la confiance ira sans idée de retour. Et la poésie doit avoir pour but la vérité pratique. L'on peut espérer que l'amour poétique ou l'œuvre poétique elle-même trouvera sa solution par la résolution des problèmes sociaux. Je t'aime au printemps, s'écrit avec la main. Je t'aime en été, avec des baisers. Je t'aime en automne, avec des feuilles mortes. Je t'aime en hiver, en marchant dans la neige. Le baiser mystérieux, le plus beau, le plus troublant des baisers. Définition du mot amour. J'oppose à l'amour des louanges toutes faites au lieu d'images à faire. Voici une petite, juste une petite définition du surréalisme vue par Paul Éluard. Surréalisme. Le surréalisme qui est un instrument de connaissance et par cela même un instrument aussi bien de conquête que de défense, travaille à mettre au jour la conscience profonde de l'homme, à réduire les différences qui existent entre les hommes. Un autre mot, terre. La terre est bleue comme une orange. Voir. Le poète voit dans la même mesure qu'il se montre, et réciproquement. Un jour, tout homme montrera ce que le poète a vu. Fin de l'imaginaire. Il n'y a rien d'autre que communication entre ce qui voit et ce qui est vu. Effort de compréhension, de relation, parfois de détermination, de création. C'est comprendre, voir, c'est comprendre, voir. Être ou disparaître. Le regard de l'homme qui s'éveille monte jusqu'aux formes et lui font son compte de beauté. Le poète vient qui nous dit que le monde est sans limite. Le poète vient et les questions qu'il nous pose, nous mourrons de les oublier.
Puste ti. Le poème est d'abord
une mémoire. Premier langage et première mémoire. Avant l'écriture. Pour conserver et transmettre, pour ne pas perdre la mémoire. Et pour ne pas perdre la mémoire, on utilise le vers. Paul Éluard est né en 1895 à Saint-Denis, mort en 1952 à Paris. Au départ, ce qu'on pourrait appeler poème, ce sont des incantations, des formules rituelles, des généalogies de dieux, de héros, de chronologies. Le moyen archaïque pour conserver et transmettre oralement par le rythme aussi. Système mnémotechnique, pas encore poème, mais un outil. De sa fonction de communication, ce langage, par la phonétique, la syntaxe ou la sémantique, accède peu à peu à la poésie. Cet outil est l'instrument utile. D'instrument utile devenu, il continuera et deviendra une création. Alors je vais vous, juste vous dire un petit poème répété comme ça pour la mémoire. C'est un petit texte créé en Tahiti. Alors bien sûr, il manque les tambours. Mais voilà, ce sont des, c'est une, un mot répété, voilà, qui est, je vous dirai après, bon. Toa roa est la clarté. Toa roa, le centre. Toa roa, le germe. Toa roa, la base. Toa roa, l'incompréhensible. Toa roa, le fort qui crée l'univers. Toraoa, l'univers grand et sacré. Toraora, qui n'est que la coquille. C'est lui qui l'anime, qui en fait l'harmonie. Toaroa, toaroa, toa, toa, toaroa. Bon, la répétition de Toaroa devient une sorte de battement, une scansion. Alors, nous allons écouter quelque chose comme un rythme aujourd'hui de Chemirani. Dans la parole, le mythe codifie les croyances. Le mythe a des significations multiples qui s'emboîtent les unes dans les autres. Parole a plusieurs significations simultanées, aussi rythmées. vérifié, serait aussi le véhicule privilégié de la magie, car elle permet mieux que la prose la fixation dans la mémoire des formules par lesquelles la magie exerce ses pouvoirs. Ainsi que dans l'alchimie, ou qui était l'ancêtre de la chimie. La poésie au niveau de la magie, c'est le langage, ou mieux, la parole en action. Il y a dans la prière une opération magique, écrit Baudelaire. Dès la plus haute époque de l'ère chrétienne, le peuple a participé aux cérémonies du culte. Le second caractère de la poésie française a ses origines. Dans ses origines, c'est le syllabisme, moyen de transmission orale employé pour des populations analphabètes. Les grandes épopées poétiques sont liées à des civilisations de la parole. L'écriture, la forme littéraire, nous la transmet dans un moule qui les tue en partie. La poésie épique, l'Énéide, la chanson de Roland, les grands poèmes épiques de la Perse, de l'Inde, disparaissent peu à peu. L'équivalent moderne de l'Iliade, ce n'est pas une épopée en vers, mais un roman, écrivait Roger Caillois. La poésie enseigne dans l'œuvre de Lucrèce. Raymond Queneau écrit la petite cosmogonie portative. Il ressuscite des habitudes que la poésie a depuis longtemps perdues. Bertolt Brecht Sa poésie sont des petites épopées. Réussit ce genre difficile. Bachelard montre dans ses ouvrages que la poésie et la science suivent des voies divergentes. Le monde réel est fascinant, dit Éluard. La philosophie même ne peut plus emprunter les voies des muses pour se faire connaître. La parole rythmée éclate et célèbre les moments remarquables de la vie individuelle et collective. Voici un petit poème, si on peut appeler ça un poème, enfin, une complainte des pygmées. C'est au cœur de la forêt équatoriale. On peut entendre. L'animal court, il passe, il meurt, et c'est le grand froid. C'est le grand froid de la nuit, c'est le noir. L'oiseau vole, il passe, il meurt. Et c'est le grand froid, c'est le noir. Le poisson fuit, il passe, il meurt. Et c'est le grand froid, c'est le noir. L'homme mange et meurt. Et c'est le grand froid, c'est le noir. L'évolution apporte un élément qui se développe, c'est le jeu. Jouer avec les mots. Paul Éluard écrit par une comptine d'enfant, saute à pieds joints, par-dessus le monde, sur mesure, dont on lui enseigne les rudiments. Il jongle délicieusement avec les mots et s'émerveille de son pouvoir d'invention. Il prend sa revanche, il fait servir ce qu'il sait au plaisir défendu d'imaginer. D'abuser. Une comptine, c'est une formulette qui sert à compter. 1, 2, 3, la culotte en bas. 4, 5, 6, la culotte en bas. 7, 8, 9, taper comme un bœuf, etc., etc. Voyez, on peut continuer. Voilà, c'est le plaisir de compter. Et un autre aussi, une façon de dire, d'inventer un mot. Ma mule est là, pardon. Simulombulula. Simulombula. Simulombula, simulombula. Ça fait un mot. Simulombula. Ou alors, tonté, tati, tonté, tatou. Tonté, tati, loté, tatou. Tonté, tati, loté, tatou. Voilà un mot. Et ainsi de suite, voilà. C'est le plaisir phonétique. Ou poé, ou pratique. Ou pratique. Bon, abracadabra, abracadabra, amstram, gram, pique, pique, collégramme, enfin, vous les connaissez, n'est-ce pas? Voilà. Une fois, une mère a raconté à ses enfants une comptine. Cette mère inquiète raconte à ses enfants. Une plaque de chocolat s'en allait à la guerre. Elle dit à ses enfants, « Garde bien la maison. Si quelqu'un vient, donnez-lui quelque chose. Si un voleur vient, plantez-lui un couteau dans le cœur. Oh, « Non, maman, nous ne ferons pas ça, car le bon Dieu nous punira. » Voilà une comptine. C'est cruel. À tous les étages de la création poétique intervient une sorte de malingénie qui amène l'homme qui parle plus que l'homme qui écrit, à ne pas croire à l'efficacité matérielle directe de ce qu'il invente. C'est un jeu. Un jeu. Pour revenir par exemple au troubadour, le troubadour veut dire trouver, trouveur. Aujourd'hui, on a beaucoup de chercheurs, mais des trouveurs, on en a beaucoup moins. Alors, les troubadours, les trouveurs, ils avaient deux formes de poésie, qui étaient toujours chantées d'ailleurs, et il y avait le trobar clair, c'est-à-dire la poésie immédiate, rapide, et le trobar clous, c'est-à-dire la poésie obscure, clous, obscure, fermée. Donc c'était un travail à comprendre, à déchiffrer, encore un jeu. Alors, bien sûr que le trobar clous est difficilement accessible dans un verbe inaccessible, fidèle à l'essence même de leur art. Le poète peut tout dire. Aujourd'hui, la poésie n'est plus mémoire, quoique, mais le miroir de l'homme. La poésie est aussi refuge, surtout si elle est comme l'air qu'on respire. Toutes les tours sont démolies, toutes les paroles seront sacrées, et l'homme s'étant enfin accordé à la réalité qui est sienne, n'aura plus qu'à fermer les yeux pour que s'ouvrent les portes du merveilleux. Paul Éluard, le poème de, le poète de l'amour. Alors là, il y a un petit poème du désir. Du désir. Le principal désir des hommes dans la société où je vis est de posséder. Négligeant la réaction passive de ceux qui recherchent la pauvreté, je suis solidaire, sa classe d'hommes qui veut abolir la propriété individuelle, et je la crois seule capable de donner toute sa valeur aux désirs élevés qui sont les miens. Le plus noble des désirs est celui de combattre tous les obstacles posés par la société bourgeoise à la réalisation des désirs vitaux de l'homme, aussi bien à ceux de son corps qu'à ceux de son imagination. Ces deux catégories étant d'ailleurs presque toujours étroitement confondues et se déterminant l'une l'autre. La passion représente justement pour moi une telle somme de désirs, aussi bien dans la qualité que dans la quantité, qu'il m'est très souvent difficile de l'identifier au concept simple de désir. Désir d'être heureux, désir d'être malheureux, d'identifier un autre individu à soi-même, de perdre sa personnalité, de se survivre, de mourir, etc. Tout ce qui la compose fait que je la surestime trop pour en avoir une idée claire. L'homme ne peut jamais complètement détruire les murs qui lui ont été imposés pendant son enfance. Pour qu'il se développe librement, il faudrait qu'enfant, il soit élevé par des enfants. C'est pas beau, ça ? Tout le monde n'est pas d'accord, hein, sur cette histoire d'élever les enfants, élevant les enfants. Quoique des fois, c'est assez remarquable. Donc, André Breton, toujours avec le surréalisme, il disait, c'est tout de même pour ces gens qu'il y a des fraises des bois. Oui, c'est très surréaliste. Pour vivre ici. Il écrivait ça en 1918. Alors, Éluard. Je fis un feu, l'azur m'ayant abandonné, un feu pour être son ami, un feu pour m'introduire dans la nuit d'hiver, un feu pour vivre mieux. Je lui donnais ce que le jour m'avait donné, les forêts, les buissons, les champs de blé, les vignes, les nids et leurs oiseaux, les maisons et leurs clés, les insectes, les fleurs, les fourrures, les fêtes. Je vécus au seul bruit des flammes crépitantes, au seul parfum de leur chaleur. J'étais comme un bateau coulant dans l'eau fermée, comme un mort. Je n'avais qu'un unique élément. Alors bien sûr, le feu et l'eau, chez Éluard, c'est très important. Ce sont ces deux éléments permanents. Ne pas oublier de vivre mieux, de vivre ici. Chez Mirani. Alors, bon, je continue. Ah bon, ça va. Seul abri possible, c'est le monde entier. Au rendez-vous allemand, un poème, enfin un dialogue, si on peut dire, les armes de la douleur. Ô père, daddy, daddy des ruines, homme au chapeau troué, homme aux orbites creuses, homme au feu noir, homme au ciel vide, corbeau pour faire vivre vieux. Tu avais rêvé d'être heureux, daddy, des ruines. Ton fils est mort, assassiné. Daddy, la haine. Ô victime cruelle, mon camarade des deux guerres, notre vie est tailladée, saignante et laide. Mais nous jurons de tenir bientôt le couteau. Daddy, l'espoir des autres. Tu es partout. Maintenant, c'est la mère qui parle. J'avais, dans nos serments, bâti 3 châteaux. Un pour la vie, un pour la mort, un pour l'amour. Je cachais comme un trésor les pauvres petites peines de ma vie heureuse et bonne. J'avais, dans la douceur, tissé 3 manteaux, un pour nous deux et 2 pour notre enfant. Nous avions les mêmes mains et nous pensions l'un pour l'autre, nous embellissions la terre. J'avais, dans la nuit, compté 3 lumières, le temps de dormir, tout se confondait, fils, espoir et fleurs miroirs, œil et lune. Homme sans saveur, mais clair de langage, femme sans éclat, mais fluide aux doigts. Brusquement, c'est le désert, et je me perds dans le noir. L'ennemi s'est révélé. Je suis seul dans ma chair. Je suis seul pour aimer. Son fils, cet enfant. Ah, cet enfant aurait pu mentir et se sauver. La molle pleine infranchissable, cet enfant n'aimait pas mentir. Il cria très fort ses forfaits. Il opposa sa vérité, la vérité, comme une épée à ses bourreaux, comme une épée, sa loi suprême. Et ses bourreaux se sont vengés. Ils ont fait défiler la mort. L'espoir, la mort, l'espoir, la mort. Ils l'ont gracié, puis ils l'ont tué. On l'avait durement traité. Ses pieds, ses mains étaient brisés, dit le gardien du cimetière. Une seule pensée, une seule passion, et les armes de la douleur. Des combattants saignant le feu, ceux qui feront la paix sur terre, des ouvriers, des paysans, des guerriers mêlés à la foule, de quels prodiges de raison pour mieux frapper des guerriers comme des ruisseaux partout sur les champs desséchés ou battant d'ailes acharnées le ciel boueux pour effacer la morale de fin du monde des oppresseurs et selon l'amour, la haine. Des guerriers selon l'espoir, selon le sens de la vie et la commune parole, selon la passion de vaincre et de réparer le mal qu'on nous a fait. Des guerriers selon mon cœur, celui-ci pense à la mort, celui-là n'y pense pas. L'un dort, l'autre ne dort pas, mais tous font le même rêve, se libérer, chasser est l'ombre de tous. C'est toujours extrait du rendez-vous allemand. Et maintenant, puisqu'on est dans cette ambiance, d'ailleurs, quand on pense à la Syrie, on peut voir que la LUR est tout à fait d'actualité. Noël. Alors, c'est un petit poème. Noël, les accusés de Nuremberg. C'est un tout petit poème. Enfin, quoi. Alors, les accusés de Nuremberg sont en vacances. Ces jeunes filles défilent au rythme de 5 à l'heure devant le tribunal des enfants. Les journaux, décembre 1945. Autour de nous, l'univers s'est gelé. Notre maison s'est dégradée. De la cave au drapeau, de la source à l'oiseau, de l'ombre incarnée au soleil total, un soir sans fin s'est imposé. Des larmes salies, de sourires passés au feu, de mains abandonnées. On a traqué les innocents comme des bêtes. On a cherché les yeux qui voyaient clair dans les ténèbres pour les crever. Et sur les ruines transparentes, sur les chagrins cloués au cœur, voici les juges habituels, ceux qui font pour eux. Peur. Peur aux imbéciles qui font jurer les démons. Fin connaisseur de la morale, il compte les victimes, use à une, puis par millions. Les victimes et les profits. Les victimes ont peu de poids, mais les profits sont réversibles. Il leur faut gagner du temps, l'oubli viendra, la poussière recouvrira le désordre. Il leur faut être prudents pour ne pas rompre la chaîne. De plus grands crimes sont possibles. Enfin, voici des juges qui prolongent la vie.
Silence.
Ici, crier. Ici, l'action se simplifie. J'ai renversé le paysage inexplicable du mensonge. J'ai renversé les gestes sans lumière et les jours impuissants. J'ai par-dessus terre jeté les propos lus et entendus. Je me mets à crier. Chacun parlait trop bas, parlait et écrivait trop bas. J'ai reculé les limites du cri. L'action se simplifie. Car j'enlève à la mort cette vue sur la vie qu'on lui donnait sa place devant moi. Deux cris. Tant de choses ont disparu que rien jamais ne disparaîtrait plus de ceux qui méritent de vivre. Tant de choses ont disparu que rien jamais ne disparaîtra plus que ce qui mérite de vivre. Je suis bien sûr maintenant que l'été chante sous les portes froides, sous des armures opposées. Les saisons brûlent dans mon cœur. Les saisons, les hommes, leurs astres, tout tremblant d'être si semblable. Et mon cri, nu, monte une marche de l'immense escalier de joie. Ainsi voici mûrir un fruit brûlant de froid givré, de sueur. Voici la place généreuse qui ne dorme ou ne dorme que les rêveurs. Le temps est beau, crions plus fort, plus pour que les rêveurs dorment mieux, enveloppés dans des paroles qui font le beau temps dans mes yeux. Je suis bien sûr qu'à tout moment, aïeux les fils de mes amours, de mon espoir, le bonheur jaillit de mon cri. pour la recherche la plus haute. Un cri dont le mien soit l'écho. Nous allons maintenant parler de Guernica. Guernica, qui a un tableau fameux de Picasso. Moi qui m'impressionne toujours chaque fois que je le regarde. Pourtant, c'était une petite ville, Guernica, petite ville de Biscaye, capable... capitale traditionnelle du Pays basque. C'est là que s'élevait le chêne, symbole sacré des traditions et des libertés basques. Guernica n'a qu'une importance historique et sentimentale. Le 26 avril 1937, jour du marché, dans les premières heures de l'après-midi, les avions allemands au service du Franco bombardèrent Guernica durant 3 heures et demie par escadrille, se relevant tour à tour. La ville fut entièrement incendiée et rasée. Il y eut 2 000 morts, tous civils. Ce bombardement avait pour but d'expérimenter les effets combinés des bombes explosives et des bombes incendiaires sur une population civile. Visages bons au feu, visages bons au froid, au refus, à la nuit, aux injures, aux coups, visages bons à tout. Voici le vide qui vous fixe, pauvre visage sacrifié, votre mort va servir d'exemple. La mort que renversée. Ils vous ont fait payer la paix, le pain de votre vie. Ils vous ont fait payer le ciel, la terre, l'eau, le sommeil et même la misère noire. Gentils acteurs, acteurs si tristes mais si doux. Acteurs d'un drame perpétuel, vous n'aviez pas pensé à la mort. La peur et le courage de vivre et de mourir. La mort si difficile et si facile. Les gens de Guernica sont de petites gens. Ils vivent dans leur ville depuis bien longtemps. Leur vie est composée d'une goutte de richesse et d'un flot de misère. Ils aiment leurs enfants. Leur vie est composée de tous ces petits bonheurs, d'un très grand souci, celui du lendemain, demain. Il faut manger, demain, il faut vivre. Aujourd'hui, l'on espère. Aujourd'hui, l'on travaille. On a tout lu dans les journaux en buvant son café quelque part en Europe. Une légion d'assassins écrase la fourmilière humaine. On se représente mal un enfant éventré, une femme décapitée, un homme vomissant tout son sang d'un seul coup. Ouh, c'est loin, l'Espagne, c'est à nos frontières. Le café bu, il faut aller à son travail. On n'a pas le temps d'imaginer qu'il se passe quelque chose ailleurs. Et l'on étouffe ses remords. Demain, il sera temps de subir la douleur et la peur et la mort, mais il sera trop tard pour abolir le crime. Les balles des mitrailleuses achèvent les mourants. Les balles des mitrailleuses jouent avec les enfants mieux que le vent, par le fer et par le feu. L'homme est écrasé comme une mine, creusé comme un port sans vaisseau. Creusé comme un foyer sans feu. Les femmes et les enfants ont le même trésor de feuilles vertes de printemps et de l'épure et de durée dans leurs yeux purs. Les femmes et les enfants ont le même trésor dans les yeux. Les hommes le défendent comme ils peuvent. Les femmes et les enfants ont les mêmes roses rouges dans les yeux. Chacun montre son sang.
dire que tant d'entre nous ont eu peur de l'orage. Aujourd'hui, il est établi que l'orage, c'était la vie. Dire que tant d'entre nous avaient peur des éclairs, peur du tonnerre, que nous étions naïfs, le tonnerre est un ange, les éclairs sont ses ailes, et nous n'étions jamais descendus dans la cave pour ne pas voir l'horreur de la nature en feu. Aujourd'hui, c'est la fin de notre monde. À nous, chacun montre son sang. Définitivement. Les enfants prennent un air absent et nous allons être réduits à notre plus simple expression. Dire qu'il y a des larmes de plaisir et l'homme ouvrait ses bras à sa femme amoureuse. Les enfants consolés sanglotaient en riant. Aux yeux des morts ont l'épaisseur de la terreur. Les yeux des morts ont la minceur de terres arides. Les victimes ont bu leurs larmes comme un poison. Casqués, bottés, corrects et beaux garçons, les aviateurs lâchent leurs bombes avec application. Au sol, c'est la débâcle. Le plus grand philosophe qui s'applique au bien y regarde à deux fois avant d'en tirer un système. Car avec le présent, c'est le passé et l'avenir qui s'éparpillent, toute une suite qui se rompt, qui se consume dans un cratère. C'est la mémoire de la vie que l'on souffle comme une bougie. Sur les hommes du sang, sur la bête du sang, une vendange dégoûtante et plus puante que les bourreaux eux-mêmes, pourtant purs et propres. Tous les yeux sont crevés, tous les cœurs sont éteints, la terre est froide comme un mort. Allez donc retenir une bête qui sent la mort. Allez donc expliquer à une mère la mort de son enfant. Allez donc inspirer confiance dans les flammes. Comment faire comprendre que les grands de ce monde ont les enfants pour ennemis et qu'ils s'attaquent à un berceau comme à une machine de guerre? Il n'y a qu'une nuit. C'est celle de la guerre, grande sœur de la misère et fille de la mort répugnante, affolante. Homme pour qui ce trésor fut chanté, homme pour qui ce trésor fut gâché. Songez à l'agonie de votre mère, de votre frère, de vos enfants. Songez à cette lutte qui termine la vie, à l'agonie de vos amours. Défendez-vous des assassins, un enfant vieillard se sent pris au ventre par l'homme énorme, par l'horreur énorme de la vie en deuil d'elle-même. Ils ressentent d'un seul coup, pour en finir ainsi, l'absurdité de vouloir vivre. Tout passe à la boue, le soleil noirci, monument de détresse. Beau monde des masures, de la ruine et des champs, mes frères, vous voilà transformés en charognes, en squelettes brisés. La terre tourne en vos orbites, vous êtes un désert pourri, et la mort a rompu l'équilibre du temps. Vous êtes les sujets des vers et des corbeaux, et vous fûtes pourtant notre espoir frémissant. Sous le bois mort du chêne de Guernica, sur les ruines de Guernica, sous le ciel pur de Guernica, un homme est revenu qui portait dans ses bras un chevau bêlant et dans son cœur une colombe. Il chante pour tous les autres hommes, le chant pur de la rébellion qui dit merci à l'amour, qui dit non à l'oppression. Les promesses naïves sont les plus sublimes. Il dit que Guernica, comme Oradour et comme Hiroshima, sont les capitales de la paix vivante. Leur néant fait entendre une protestation plus forte que la terreur même. Un homme chante, un homme espère, et les frelons de ses douleurs s'éloignent dans l'azur durci. et les abeilles de ses chansons quand même fait leur nid dans le cœur des hommes. Guernica, l'innocence aura raison du crime. Guernica.
Alors le poète, le promeneur ou le berger, l'homme de la colombe, du chevreau, c'est Picasso. Le tableau fameux de Picasso. Picasso, ici, je te vois et je te nomme Éluard. C'est Éluard, son frère, qui parle. Je connais ton visage depuis longtemps. Je le vois vite et le vois lentement. Un visage de ma famille, une grande famille composée d'amis très sûrs, amis de jour, amis de nuit, tous assez beaux, très différents. De bonnes gens, de vrais amis, toujours prêts à faire amis, à tendre la patte comme l'ours à miel avance la sienne. Mais c'est ici, mais c'est toi, Picasso, qu'ils embrassent d'abord, car ils te sont très obligés de régler leur comportement. Tu les rends humbles et fiers dans la sphère de plaie et bosse où ils sont hommes parmi les hommes. Tu leur apprends qu'il est beau d'en passer par l'utopie heureuse, par le rêve enfantin de vacances sans fin, mais tu leur donnes aussi envie de tout comprendre et de tout voir. Tu leur donnes le courage quotidien de refuser d'être soumis aux apparences mortelles. Un beau jour, ils riront d'avoir eu soif et faim. Ils riront d'avoir été si souvent nourris d'eux-mêmes. Picasso, ton visage reflète tous leurs soucis et leurs peines, tout comme le visage de la femme qu'ils aiment. Tu es tout à ton travail. Jeune ou vieux, tu travailles à mettre à nu tes yeux et ce qu'ils voient, ce que tu crées. Ainsi, tu es armé contre la mort, contre l'amertume du corps, contre le laisser-aller et le repentir. Que l'on dise de toi que tu es un peintre, et non un grand peintre, ni un petit peintre. Un peintre, comme on dira fraîchement, un homme, quelque métier qu'il fasse. Que l'on dise de toi que tu as travaillé au lieu saint de la paresse méritée. Ton travail, un jour, sera à l'honneur. Ton travail a le poids de tout travail utile. J'écris pour tes amis. Ils sont légions. J'écris pour tous. Pourtant, j'écris au bord d'un abîme sans fond dont seul le travail me détourne. J'écris avec des briques et des charpentes en fer, avec une charrue, avec un flambeau brûlant, avec l'énergie du désespoir. Je t'écris d'un lit à demi creusé par la mort. Pour toi, la vie est à jamais gagnée. Je te vois bâtir ta maison, allumer ton feu et couper ton pain, aimer une femme, faire des enfants, servir tes frères et ne pas jouer le jeu infâme où les hommes sont rivaux. Je voudrais bien que l'on me dise qui est celui de ces tableaux qui engendra une souffrance. Où est-il l'imbécile qui peut prétendre avoir pâti de ton effort? Tu refuses d'entrer dans le refuge idiot. Tu vas suivant toujours le contour épuisant des formes vagabondes, la corde des naissances précipitées, les raisons imprévues, la couronne de la mère humaine, couronne du corps, du cœur et du cerveau. Le corps humain s'impose à toi par son foyer et par ses ailes. Tu refuses d'entrer dans le jeu de ceux qui sont vaincus d'avance. Ils se sont arrêtés pour voir le paysage, déjà passé, et ils sont bas, et ils sont lâches. Ils se croyaient sublimes, ils sont tout simplement absents, absurdes.
toi, tu vas dans la rue avec confiance. Tu sais que l'homme s'amalgame avec l'idée qu'il a des autres et que nous ne sommes nombreux et fidèles que dehors, hors des prisons, dans l'atmosphère légère de nos semblables. Oh, mon semblable, oh, mon contraire, à l'infini du monde se divise, mais aussi se rassemble. Je pourrais évoquer ici tes amours, j'en ai le droit, car j'ai mis ma main sur ton épaule pour me soutenir. Et tu en aurais soutenu des milliers comme moi, car tu es ce rocher d'où tous les hommes qui espèrent et lancent dans l'inconnu, dans l'innocence avec toute leur raison, avec cette innocence qui leur permet d'avoir raison. Des milliers d'hommes et des milliers de femmes captifs et captives qui soudain se libèrent par un mot, par un geste, par un regard, des yeux, une bouche, un corps qui ouvre toutes les portes. Et le monde s'illumine. Dans les traîtres filets du jour, l'horizon s'embrouille et les routes se perdent. Et sur la terre nue, le soleil nous conduit. Évoquez tes amours présentes et mes amours perdues. Il est bon de parler de ce qu'on aime et de ce qu'on a aimé. Tu es heureux. J'ai été heureux. Vois, je suis presque aveugle et j'aime la lumière. Regarde-moi, puisque tu sais donner un corps définitif à ce qui passe et perpétuer l'image qui gît sur nous, sur notre table. Voir et comprendre se rejoignent. Les formes que tu crées n'ont pas droit à la nuit. Une foule de portraits semblables et confiants mouroirs et miroirs de toute vérité. Mon doux ami, la mer est devant nous, totale. Nous la touchons et ne la voyons pas. Tu me persuades que celle que j'aimais, je puis la voir, même ne la touchant plus. Tu sais l'espace entier, la distance entre tous les désirs, entre tous les objets si différents des songes et des désirs, entre la veille et le sommeil, entre la main et le nuage, notre mère, entre nous, notre chair et son double.
Voilà, les poèmes du lundi, cette émission proposée par Sophie Laurence. Merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain pour une surprise encore, un poète d'hier ou d'aujourd'hui. Merci Sophie et à très bientôt.
À bientôt, merci. Au revoir.